Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une véritable institution française. On a sur la table une pile de documents sur l'aquarium de La Rochelle.
Bonjour. Oui, et l'idée, ce n'est pas juste de faire une visite virtuelle.
Non, pas du tout. On va vraiment essayer de comprendre ce qui se passe en coulisses, de décortiquer la recette de ce qui est devenu le premier site touristique de Charente-Maritime.
Exactement. On va voir comment une aventure, au départ familiale, a pu se transformer en un pôle scientifique de cette envergure.
Tout en proposant une expérience qui, d'après les sources, est incroyablement immersive.
C'est ça. C'est un cas d'étude passionnant, en fait, sur ce que doit être un aquarium au XXIe siècle.
Et pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, il y a quelques chiffres qui donnent le tournis.
Ah oui, c'est énorme.
On parle de 12 000 animaux marins, de 600 espèces différentes, sur une surface de presque 8 500 mètres carrés.
Et tout ça dans 3 millions de litres d'eau de mer, c'est colossal.
Et la moitié de ça, 1,5 million de litres, c'est juste pour le bassin des requins.
Incroyable.
C'est un monstre qui attire 800 000 visiteurs par an. Et petite note pour l'agenda, en 2026, l'aquarium fêtera les 25 ans de sa forme actuelle.
Déjà ?
Alors, commençons par le début, parce que l'histoire est assez folle. Ce qui frappe dans les documents, c'est que ce n'est pas le projet d'un grand groupe financier ou d'une collectivité.
Non, c'est l'œuvre d'une famille, l'Écoutant.
Exactement. Et tout part du père, René Coutant, dans les années 50. Et ce qui est dingue, c'est que ce type était ingénieur horticole. A priori, rien à voir avec l'océan, rien à voir. Et pourtant, c'est lui qui va tout changer. Il a une idée de génie, mettre au point les tout premiers aquariums d'eau de mer en circuit fermé. Il faut bien mesurer ce que ça veut dire à l'époque.
Ah mais c'est une révolution. C'est un peu comme si un luthier avait inventé la guitare électrique. Avant lui, maintenir un écosystème marin en captivité, c'était de l'artisanat ultra complexe.
Presque de la magie noire.
C'est ça. Son invention a posé les bases de toute l'aquariologie moderne. Les plus grands aquariums du monde utilisent encore ce principe aujourd'hui.
Et c'est grâce à ça qu'il peut ouvrir un premier petit aquarium de 250 mètres carrés en 1970. Mais l'histoire prend un tournant vraiment tragique.
Oui, en 1985.
Un incendie. Tout est ravagé. L'aquarium est réduit en cendres. On pourrait penser que c'est la fin du rêve.
Bami, c'est souvent là que les belles histoires s'arrêtent. Mais pas celle-ci.
Non, parce que ses enfants, Roselyne et Pascal, décident de reprendre le flambeau. Et au lieu de juste reconstruire à l'identique...
Ils voient beaucoup, beaucoup plus grand.
C'est une preuve de résilience assez folle. En 1988, ils inaugurent un tout nouvel aquarium aux Minimes. Il devient le plus grand de France à l'époque.
Et le succès est immédiat. C'est la déferlante. 600 000 visiteurs dès la première année. Ce succès fulgurant, il est très révélateur. Bien sûr, il y a la passion familiale qui surmonte le drame... qui le transforme en opportunité.
Oui.
Mais ça montre aussi qu'à la fin des années 80, le public était prêt. Il y avait une soif, une véritable attente pour cette connexion avec le monde marin. Ils ont eu la bonne vision au bon moment.
Tellement bien senti qu'ils se retrouvent vite à l'étroit. Leur grand aquarium de 88 est déjà trop petit.
Face à l'affluence, oui. C'est là qu'ils prennent la décision la plus audacieuse de leur histoire. Construire la version actuelle, 6 fois plus grande, en plein cœur de la ville, sur le Vieux-Port. Et c'est l'inauguration en 2001, le début du géant qu'on connaît aujourd'hui.
Cette histoire familiale est incroyable. Elle a bâti les murs. Mais ce qui fait venir 800 000 personnes, c'est ce qui se passe à l'intérieur.
L'expérience.
Et justement, les documents décrivent la visite comme quelque chose de très cinématographique, dès les premières secondes.
Comment ça ?
On entre dans un décor de sous-marin, un ascenseur nous fait descendre symboliquement dans les profondeurs et le clou... C'est un sas immersif à 380 degrés qui nous projette directement dans l'océan.
Ah oui, ça c'est très malin. C'est une technique qu'on pique directement au concepteur de parc d'attractions. On ne vous montre pas le monde, on vous force à y entrer.
On est dedans.
Voilà. Le but, c'est de pirater le cerveau du visiteur pour qu'il oublie le parking, le billet d'entrée. En créant cette rupture sensorielle, on le rend beaucoup plus réceptif, plus émerveillé.
Et c'est la clé pour la suite.
Bien sûr. C'est la clé pour que le message écologique qui suit soit vraiment entendu et, surtout, ressenti.
Et le parcours commence dans des eaux qu'on connaît, l'Atlantique. C'est là que je suis tombé sur un détail que je trouve génial dans les sources, sur les hippocampes mouchetés. On pense tous savoir sur la faune locale.
Et en fait, non.
Mais en fait, chez eux, c'est le mâle qui porte les œufs et qui accouche. C'est quand même fou, non ?
C'est incroyable.
On y voit aussi des seiches qui ont un nouvel espace depuis 2024 et leur capacité à changer de couleur en une fraction de seconde. C'est juste stupéfiant.
Et le fait de commencer par l'Atlantique, puis la Méditerranée, c'est une approche pédagogique très intelligente. Il nous accroche avec ce qu'on connaît, avec notre « chez nous », avant de nous emmener à l'autre bout du monde.
Ça crée un point de repère.
Une connexion immédiate, oui.
Justement, après la Méditerranée et ses poulpes super intelligents, on change complètement d'ambiance pour entrer dans la galerie des Lumières.
L'espace des méduses.
Oui. Les descriptions parlent d'une atmosphère hypnotique, d'un véritable ballet aquatique psychédélique dans la pénombre. Apparemment, c'est un des moments forts.
Je veux bien le croire. Et les infos sur ces créatures sont vertigineuses. Elles sont là depuis 600 millions d'années, bien avant les dinosaures. Et elles n'ont ni cerveau, ni cœur, ni sang.
C'est un voyage dans une autre dimension.
Il y a une idée très puissante derrière cet espace. Au-delà de l'info, c'est une expérience purement esthétique. La méduse, c'est une créature qui est souvent crainte. On l'associe à la brûlure sur la plage.
Bien sûr.
En la présentant comme une œuvre d'art vivante, l'aquarium désamorce cette peur et la remplace par de la fascination. C'est de l'écologie par l'émotion.
Le voyage se poursuit et là, c'est l'explosion de couleurs. On arrive dans les Caraïbes, l'Indo-Pacifique, c'est le royaume des stars de cinéma pour les enfants.
Nemo et Dory.
Le poisson clown, le chirurgien bleu. On y croise aussi des nautiles, décrits comme de véritables fossiles vivants.
Ils changeaient depuis 500 millions d'années, c'est ça. Et un point important mentionné dans les notes, le Grand Lagon a été entièrement réaménagé en 2024 avec de nouveaux coraux qui sont cultivés directement sur place. Et là, on touche à un point absolument crucial. La culture de coraux, ça peut paraître un détail technique, mais c'est fondamental.
Pourquoi ?
Dans le contexte actuel de blanchissement et de destruction massive des récifs coralliens, des aquariums comme celui-ci deviennent bien plus que des lieux d'exposition. Ils se transforment en conservatoires.
Des banques génétiques ?
Exactement, des pépinières pour l'avenir. Ils préservent un patrimoine vivant qui pourrait un jour, espérons-le, être crucial pour réensemencer les océans. C'est une responsabilité énorme. Et en parlant de responsabilité, on arrive au grand frisson, le clou du spectacle, le théâtre des requins, le fameux bassin d'1,5 million de litres.
On y trouve des requins taureaux et, depuis 2024, des requins zèbres. Et pour tordre le cou aux idées reçues, les sources rapportent une anecdote assez parlante.
Ah oui ?
On a statistiquement plus de chances de mourir d'une chute de noix de coco sur la tête que d'une attaque de requin.
C'est anecdotique, mais c'est au cœur de leur mission. Ici, l'aquarium ne fait pas que montrer un prédateur fascinant. Il s'attaque frontalement à un mythe hollywoodien.
À la psychose des dents de la mer.
Qui a fait un tort considérable à ces animaux. En réhabilitant l'image du requin, ils ne font pas que de la pédagogie. C'est un acte militant qui participe à la conservation d'espèces menacées, souvent à cause de cette mauvaise réputation.
Absolument. Et cette mission de conservation, elle est encore plus concrète, plus visible, dans la partie suivante qui est consacrée au Centre d'études et de soins pour les tortues marines, le CESTM.
Là, on n'est plus du tout dans le spectacle.
Non, on est dans une véritable clinique pour animaux sauvages. Leur boulot, c'est de recueillir, soigner et relâcher les tortues marines qui s'échouent sur tout le littoral français.
De la Belgique à l'Espagne, la zone d'intervention est gigantesque.
Et les chiffres sont impressionnants. Ils ont battu un record avec 138 tortues soignées rien qu'en 2024.
Plus de 220 relâchées depuis 1988.
Mais au fond, pourquoi ? Pourquoi autant de tortues se retrouvent en détresse sur nos plages ?
C'est le reflet direct de l'état de nos océans. Les sources pointent deux coupables majeurs. Le premier, ce sont nos déchets. Le plastique, surtout.
Le sac plastique qui ressemble à une méduse. Exactement. La tortue ne fait pas la différence, elle s'étouffe avec. Et le deuxième coupable, c'est nous, directement. Les collisions avec les hélices de bateaux. Le CSTM, c'est en quelque sorte le service d'urgence qui répare les dégâts de notre propre impact. Et ils vont jusqu'au bout. Une fois soignés, les tortues sont relâchées avec une puce GPS. On peut suivre leur voyage en direct sur Internet.
Une initiative parrainée par des figures comme Isabelle Autissier ou Nicolas Hulot, oui.
C'est une preuve très tangible de leur engagement.
C'est la preuve la plus tangible, oui. On comprend que le billet d'entrée ne sert pas juste à financer le spectacle, il finance directement cette ambulance pour tortues.
On devient contributeur sans le savoir.
C'est ça. On passe d'une logique de monstration, où l'on montre des animaux, à une logique d'action, où l'on participe activement à leur survie.
Et cet engagement est global, en fait. L'établissement lui-même est pensé pour être écologique. Il a une certification NF Environnement.
Concrètement, ça veut dire quoi ?
Des panneaux solaires sur le toit, la récupération des eaux de pluie pour la serre tropicale, le compostage. C'est aussi une nurserie qui maîtrise la reproduction d'espèces menacées.
Et ils collaborent avec des universités, le CNRS ?
Oui, ils travaillent main dans la main.
C'est ce que j'appelle le modèle à 360 degrés. Le bâtiment lui-même, le contenant, devient un écosystème durable en parfaite cohérence avec son message. Quand le discours et les actes sont alignés à ce point, le message de préservation devient beaucoup plus puissant.
Et au moment où on pense avoir fait le tour du monde marin, les documents décrivent un virage à 180 degrés, un twist final.
Hein ?
On quitte l'océan pour entrer dans une serre tropicale. On se retrouve en pleine Amazonie. La chaleur, l'humidité, la végétation luxuriante. Je ne m'y attendais pas du tout.
C'est une façon de boucler la boucle. De montrer que la santé des océans est intrinsèquement liée à celle des continents.
Que tout est connecté.
Voilà. Le cycle de l'eau, les forêts. Et c'est aussi l'occasion de réhabiliter un autre monstre de cinéma.
Le piranha.
Oui, dont on apprend sur place que sa réputation de tueur sanguinaire est, comme pour le requin, très largement surfaite.
Alors, si on essaie de tout rassembler, qu'est-ce que ça nous dit, ces sources ? Elles nous peignent le portrait d'un lieu qui est bien plus qu'une simple collection d'animaux.
Bien plus.
C'est une saga familiale inspirante, une machine à créer de l'émerveillement, et surtout, un acteur scientifique et écologique qui agit concrètement.
C'est exactement ça. Cet aquarium illustre à la perfection ce que ces institutions doivent devenir au XXIe siècle. On est passé de l'époque du zoo aquatique, un simple lieu d'exhibition,
à autre chose,
à des centres de sensibilisation, d'éducation et de conservation active. Ils ne sont plus de simples fenêtres sur l'océan, ils en sont devenus les ambassadeurs, les avocats.
Et pour finir, il y a une pensée qui m'est venue en lisant tout ça, une question qui reste un peu en suspens.
Je t'écoute.
On a vu que l'aquarium reproduit des coraux, qu'il sauve des tortues. Deux exemples d'espèces massivement menacées dans leur milieu naturel à cause de nous.
Oui.
Ça soulève une question un peu vertigineuse pour l'avenir. Alors que les écosystèmes marins sont de plus en plus fragilisés, est-ce que des lieux comme celui-ci, au-delà de leur rôle touristique, ne sont pas en train de devenir des sortes d'archives vivantes ?
Des arches de Noé, Noé à mode.
Exactement. Des arches de Noé pour une biodiversité marine qui, peut-être, peine de plus en plus à survivre dans son propre monde.